Vous êtes sur Ondabulle, c'est Radio Campus 93.3 à Clermont-Ferrand et nous sommes au FIBD et nous avons la chance d'être avec Julien Nil. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté cette interview.
Bonjour, bonjour, comment ça va?
Et bien ma foi, ça va et toi?
Super, 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 bien content d'être là.
Très bien. Donc vous êtes l'auteur de... On va tutoyer, allez, souviens-toi. Voilà. Tu es l'auteur de Loup, entre autres, donc dont le 7e volume vient de sortir en fin d'année dernière à peu près. Mm-hmm. Et donc c'est 12 ans après le premier volume déjà, ça fait un sacré moment, dis donc.
Combien
12 ans je crois après le premier volume.
12 ans? Non.
Non, 4 ans.
Ah bon, d'accord.
Non, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai fait entre les deux, j'ai fait un film.
Tu as fait un film, tu as fait d'autres bandes dessinées, ouais, donc voilà, c'est pas du tout illégitime d'avoir mis 12 ans, d'avoir fait grandir le personnage en plus.
C'est ça. Bah, Lou, elle grandit d'album en album depuis le tome 1. Et alors c'est vrai que là, il y avait. En fait, je voulais vraiment enchaîner les tomes 6 et 7 très rapidement parce qu'il y avait quand même une rythmique en question-réponse. Et entre autres, il y a eu ce film entre les deux qui fait qu'il y a eu un énorme délai entre ces réponses et cette question posée. Donc ça a mis les gens un petit peu dans l'expectative parce qu'il y avait...
Ensuite, l'expérience était intéressante.
L'expérience était intéressante et puis il se trouve que les lecteurs sont toujours au rendez-vous. Ils ont vieilli, ils ont pris dans la gueule, mais ils sont toujours là. Et c'est agréable de les retrouver.
D'accord. Justement, en 12 ans, donc on a pu comprendre que Lou s'est bien émancipé des carcans de la bande dessinée classique du gag en une planche. Comment tu avais conçu justement le projet à l'origine?
En fait, le projet est né dans la collection Tcho, qui était la collection créée par Zep et Jean-Claude Camano. Effectivement, qui était au début une collection lancée dans le sillage de Titeuf, qui était une collection gag en une planche. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas réussi à faire du gag en une planche, c'est-à-dire que cette contrainte du personnage qui ne grandit pas, qui ne vieillit pas, qui n'a pas de mémoire, imposée par le gag en une planche, quelque part, il y a des gens qui font ça brillamment, hein, moi j'ai pas réussi. Et donc, très vite, en fait, j'ai structuré les gags que j'avais fait pour le magazine, je les ai assemblés dans le tome 1 pour qu'il y ait une forme de continuité. Et à partir du deuxième, j'ai fait voler le truc en éclats et j'ai commencé à travailler sur le concept d'album avec un vrai début, une vraie fin, une vraie... Voilà.
Très bien. Justement, ce qui saute aussi aux yeux quand on lit Lou, c'est qu'il y a une vraie volonté de justesse, d'essayer de trouver des personnages qui ne vont pas ressembler à des carcans, à des caricatures ou des archétypes de personnages qui sont souvent un peu fonctionnels. On sent qu'il y a quand même une vraie volonté de trouver une espèce de réponse juste. Il y a des personnages qui, effectivement, vont correspondre un peu à des choses, la dogote, mais en même temps, tu vas quand même essayer à chaque fois de changer un petit peu cette image pour y apporter une certaine justesse, je trouve.
Bah moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien, et puis c'est peut-être venu même presque un systématique d'écriture, c'est-à-dire de partir à 90 degrés dès qu'il y avait quelque chose d'attendu, me dire là où on va attendre telle réplique ou tel comportement d'un personnage, finalement je vais partir ailleurs, et tout ça c'est vraiment une quête de justesse, parce que j'ai l'impression que le monde est absurde, hein, c'est-à-dire que je trouve qu'au quotidien, les interactions sociales qu'on a, les gens qu'on rencontre et tout, finalement, il n'y a pas de clichés. Les clichés, c'est que des trucs de cinéma. C'est-à-dire que les gens normaux, ça n'existe pas. Hein. Et donc le principe, c'est que c'est d'essayer de surprendre le lecteur, de me surprendre moi, de me mettre en danger à chaque fois et de faire voler en éclats ce qu'on peut attendre de la prochaine page, de la prochaine case et du prochain album, en fait. Voilà.
Et comment justement tu commences l'écriture d'un album de Lou? Ça doit être assez intense, il doit y avoir un travail d'écriture, je pense, en amont du premier dessin qui est assez important, je suppose.
Ouais, alors il y a toujours, je passe beaucoup plus de temps généralement à préparer les albums qu'à les faire. Et cette phase d'écriture, en fait, elle passe par plein de choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a déjà un truc où je vais un petit peu me focaliser sur les thématiques que j'ai envie d'aborder dans l'album. À côté de ça, je vais commencer à me documenter, à me nourrir de livres, de films, de choses, et puis ensuite là je passe dans une phase où je note de façon informelle, mais alors ça devient, je note des images qui s'impose à moi avec cette thématique, c'est-à-dire c'est presque un truc de médium, c'est-à-dire que effectivement quand je parlais d'une période de l'adolescence, j'ai eu cette vision du cimetière des autobus qui revenait, un truc qui revenait de mon enfance, Une autre période pour moi de mon adolescence, c'était l'âge de cristal, effectivement. Et donc, c'est, voilà, c'est des images qui s'imposent. Et puis ensuite, j'essaye de tisser un lien entre ces différentes images et ça crée une histoire. Donc, c'est des notes qui sont prises sous forme d'illustrations qu'on vient d'avoir, de musique aussi. Je compose de la musique énormément en tant que notes. En fait, pour les albums, ça peut paraître bizarre, mais.
C'est vraiment le ressenti et l'émotion que tu essayes de faire ensuite passer au lecteur.
C'est ça, et c'est ça. Et puis en plus, pour moi, il y a dans le je suis assez maniaque et je travaille pas mal avec des structures mathématiques en fait. Et pour moi, la musique, c'est très mathématique. Surtout que je fais de la musique électronique. Donc c'est pour moi une façon d'agencer des concepts qui est assez proche finalement, où tu travailles sur un rythme ou sur des choses comme ça. Donc pour moi, c'est complémentaire et c'est ce qui est marrant parce que la bande dessinée c'est muet et qu'il y avait effectivement cette frustration de créer un objet sonore. Voilà.
Je réagis à ça justement. Bon, on sait que on reviendra sur le cinéma et la série, ouais. Mais est-ce que tu as justement une idée peut-être de faire une bande originale à Lou qui pourrait s'écouter en même temps que les albums, en lisant les albums? Il y a des choses qui ont été faites un peu dans cet esprit.
Oui, il y a des choses qui ont été faites là-dedans. Moi, je sais pas si parce que alors ensuite c'est un débat. C'est un débat compliqué, mais c'est vrai qu'ensuite la bande dessinée, le principe, c'est que ensuite, une fois que c'est fini, enfin une fois qu'elle est soumise au lecteur, chaque lecteur en fait est justement le concept du truc à son propre rythme. Et pour moi, imposer un rythme en bande dessinée, c'est justement ça marche pas. C'est-à-dire qu'avoir, tu vois, une bande son que tu lis en même temps, ça sera jamais calé, etc. Enfin, tu vois, tu auras pas la même intonation, la bonne intonation musicale au bon moment. Et voilà. Par contre, effectivement, le fait de travailler sur une interaction musique. Musique-image, ça m'intéresse beaucoup. Je fais pas mal de petits trucs en animation expérimentale qu'on peut voir sur ma chaîne YouTube qui sont pour moi une façon de concilier ces deux choses.
Très bien. Pour revenir donc à l'écriture de Lou, on sent que tu as investi beaucoup de toi dans les personnages, qu'il y a une grande part de toi dans chacun, et c'était assez rigolo parce que pour moi il y a une vraie mise en abîme entre le personnage donc, de la maman qui écrit Sidera et toi qui écrit Lou, où on sent qu'il y a cette idée que c'est ton quotidien, que tu dessines, que tu retravailles en fin de compte dans les albums.
Ouais, c'est complètement ça, c'est-à-dire que le... Bah, comme tous les personnages et toutes les histoires de Lou, c'est vraiment des espèces de relectures de ma vie aussi, avec des prismes différents. Et effectivement, la condition d'auteur de la mère de Lou, pour moi, c'était assez pratique en faisant le tome 1, parce que effectivement, la mère de Lou, elle est à la maison. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je suis à la maison. Qu'est-ce que je fais? J'écris. Donc, elle écrit. Et ensuite, effectivement, le fait que Sidera marche, c'était en parallèle avec le début de la réussite de Lou. Ce qui est drôle, c'est que la réussite de Sidera, elle est tout aussi absurde que celle de Lou. Et ensuite, il y a une adaptation comédie musicale sur glace de Sidera, qui est le pendant de l'adaptation au cinéma de Lou. Le fait que l'avenir de Lou vogue vers de nouvelles aspirations à ce moment-là, c'est ça. Là, dans le dernier, il y a Paul qui se plaint justement du délai entre les deux Sidera, et elle se justifie en disant qu'elle a fait une comédie musicale sur glace. Donc, c'est pas difficile à décrypter.
Et justement, c'est le personnage dont tu te sens le plus proche de ce personnage que tu as créé, ou finalement il y a peut-être d'autres personnages qui sur lesquels tu as vraiment un investissement émotionnel qui est important?
Je crois que bêtement, je pense que je suis vraiment aussi très très proche de Lou. Enfin, c'est-à-dire que en même temps, Lou, c'est bizarre parce que c'est un personnage un peu coquille, finalement un peu vide, dans lequel, enfin exprès, hein, dans lequel je laisse plein de blanc pour que les lecteurs, à l'intérieur de ce blanc, mettent des choses qui leur sont propres. Et donc, pour moi, là, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Lou, c'est un personnage point de vue, et donc, en ce sens, elle incarne aussi ma vision et mes interrogations sur le monde. Et elle comprend rien comme moi, en fait.
D'ailleurs, j'avais lu dans une interview que c'était un des prénoms que tu avais en tête pour ta propre fille, et que tu avais, qui n'avait pas été utilisé, que tu l'avais utilisé pour créer ce personnage. Est-ce que c'est une anecdote vraie déjà?
Oui, c'est vrai. Ma fille s'appelle Maya. On hésitait entre Maya et Lou, et voilà, Maya, c'était ma fille. Il restait Lou pour le personnage, donc c'était du recyclage.
Voilà. Oui, et puis une vraie implication émotionnelle, une fois de plus, c'est quand même, ça a vraiment cette idée que c'est aussi ton enfant aussi, un petit peu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas de papa, c'est toi son papa?
Je sais pas, ça, ce truc, ce pas de papa, déjà parce que moi, ayant grandi dans une famille monoparentale, quand j'étais gamin, en fait, en BD franco-belge, il n'y en avait pas beaucoup, et bêtement, j'avais lu une page dans Astrapi, qui parlait de ça, et ça m'avait fait vachement bien de voir en bande dessinée un truc où on parlait de cette situation sans en faire non plus un problème. Pour moi, le truc, c'est qu'il y a, voilà, y a plein de faits de société, de choses qu'il faut... Je trouve que c'est intéressant de les inclure dans une bande dessinée sans que ça soit un problème, parce que voilà, c'est le principe, au contraire, c'est de faire quelque chose en disant non, c'est, voilà, c'est la norme, c'est-à-dire que ça pose pas de problème au personnage. Je sais, par exemple, donc dans le dernier, il y a un personnage qui révèle son homosexualité, et on m'a reproché, enfin non, il y a des gens qui ont trouvé ça super et tout, mais on m'a reproché justement que ça passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est dans la BD, hein, personne n'est choqué et tout, pour moi c'est normal, c'est-à-dire, et même personne le relève, c'est-à-dire que c'est... Pour moi, c'est ma façon de travailler et de parler de la société contemporaine, c'est d'inclure ça sans en faire « mon Dieu, c'est l'enjeu de l'album » ou parce qu'il n'y a pas d'enjeu, quoi, c'est juste la norme.
Tout à fait. La série laisse beaucoup de place justement à l'interprétation, au lecteur, pour qu'il puisse aussi y apporter ces choses, justement. Est-ce que tu penses qu'on doit répondre à toutes les questions que va poser les enjeux d'une série ?
J'aime bien quand il y a une part de mystère, j'aime bien quand il manque des pièces au puzzle. Et c'est quelque chose, c'est même devenu un gimmick. En fait, ça a commencé dans le tome 2. Déjà, j'aime bien les silences, parce que dans le silence, chaque lecteur peut projeter quelque chose. Et par exemple, dans le tome 2, il y a effectivement la mère de Lou qui explique à sa fille. Voilà, l'adolescence c'était compliqué, mais je m'en suis sorti grâce au Rubik's Cube et à d'autres trucs, mais je te dirai quand tu seras plus grande. Et je dis pas du tout de quoi il s'agit, et en fait tout le monde dans ce « je te dirai quand tu seras plus grande » va mettre quelque chose de différent. J'ai vraiment quelque chose de transgressif, c'est rigolo. Et donc pour moi, à partir de là, je me suis dit « et c'est vraiment intéressant ça, de raisonner par défaut et de faire en sorte que le lecteur s'incarne là-dedans ». Il y avait aussi, pareil, dans le tome 3, une grande page où la première page où Lou regarde l'immeuble de Tristan se faire détruire. Et donc j'avais fait une bulle de pensée pour la première fois, et qui était très compliquée, où elle donnait son ressenti sur pourquoi, est-ce que, machin. Et en fait, je travaillais à Photoshop à ce moment-là, et bêtement, à un moment, je masque le calque du texte sans le faire exprès, donc je vois la même page sans le texte, et en fait, je me rends compte qu'elle marche beaucoup mieux. Parce que, effectivement, il y a juste Lou qui est pensive, qu'on voit le truc, il y a suffisamment de choses qui passent par l'image pour qu'on n'ait pas besoin de les dire, et puis c'est beaucoup plus fort comme ça, effectivement, parce que chaque personne, dans ce regard de Lou, va mettre un ressenti personnel, quoi.
Ça marche très bien aussi dans la scène de la discothèque, dans le dernier volume, où justement, on n'entend pas les discussions entre les personnages, et il y a ce même rapport d'interprétation qui est très intéressant, et qui correspond justement aussi à cette image qu'on a des discothèques tellement bruyantes qu'on peut pas discuter, mais pourtant on peut passer des émotions.
Oui, puis on comprend les interactions sociales. Là, c'est rigolo aussi, je suis en train de travailler sur une histoire courte qui n'a rien à voir avec Lou. Et il m'est arrivé encore la même chose, c'est-à-dire que j'avais écrit une histoire de 5 pages, avec une continuité dialoguée, avec des interactions entre les personnages, etc. Et j'avais commencé à le découper, voilà, et je trouvais ça bizarre, ça marchait pas et tout. Et puis simplement, je me suis dit, mais mon Dieu, si je fais la même chose, si je raconte la même histoire, sans parole, en muet, juste en me concentrant exactement sur les mêmes interactions entre les personnages, ça marche beaucoup mieux. Parce que, effectivement, c'est beaucoup plus riche, en fait. C'est pour ça que c'est. Alors, il faut pas que ça devienne systématique non plus, mais il y a un truc je trouve intéressant là-dedans, que je prends en compte vraiment, c'est ce truc de dire aux gens, en fait, je leur donne. Je leur donne des cartes, et puis ensuite ils vont les interpréter. J'ai un très bon ami qui fait du tarot, qui grave des cartes de tarot, qui lit le tarot, etc. Et pour moi, c'est quelque chose, je me suis beaucoup intéressé à ça, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le fait de soumettre, qui est proche finalement de la bande dessinée, c'est que tu soumets des images à des gens, et ces images en fait vont avoir un écho, ils vont faire écho à quelque chose de personnel. Et donc c'est une des thématiques que j'aime bien explorer.
D'accord. Pour en revenir aussi donc à l'expérience de la série télé et du film, est-ce que ça a changé quelque chose dans l'écriture ensuite des albums suivants de Lou ?
Je crois pas. non, je crois pas. Alors, la série animée, j'étais malheureusement pas assez impliqué sur l'écriture, ça m'a un petit peu échappé. Le film, par contre, c'est moi qui l'ai écrit, non, franchement, justement, j'ai essayé de faire en sorte de garder les mêmes façons de bosser, etc. Non, je pense pas que ça ait changé grand-chose, honnêtement.
D'accord. Le tome 8 donc, va conclure le premier cycle de Lou, normalement. Est-ce que tu comptes enchaîner directement avec toujours avec ce personnage ou tu as envie d'explorer peut-être aussi d'autres univers comme tu as pu faire dans le Viandier des Polpettes ou d'autres albums?
Alors effectivement, sur le Viandier de Polpettes, il y aura un tome 2 et un tome 3 un jour, quand Olivier et moi, on sera en phase, etc. Et puis c'est vrai que moi, j'ai malheureusement, malheureusement et heureusement, hein, j'ai cette responsabilité de Lou, c'est-à-dire qu'il s'est attendu, etc. Donc il faut juste qu'on arrive à concilier nos calendriers. Là, je sais que je suis en train de travailler sur le tome 8 et de concevoir la suite et le début du second cycle pour que ça soit suffisamment amorcé et clair à la fin du tome 8. Voilà, mais bon, le Viandier, c'était une expérience extraordinaire, et ça va être trois super albums, mais ensuite, explorer d'autres choses, en fait, dans le Loup, j'ai aucune frustration, en fait, c'est ça qui est... Enfin, et j'ai fait en sorte de ne pas avoir de frustration, c'est aussi pour ça qu'elle grandit, c'est aussi pour ça que je me remets en danger, et c'est aussi pour ça qu'après le tome 8, j'ai envie de changer de format, parce que, voilà, j'ai l'impression que sur ce type d'histoire, sur ce type de format, j'ai un peu raconté tout, etc., et que... voilà, je suis en train de ménager une porte de sortie quelque part qui va me permettre de continuer à m'amuser autant que ce que je fais actuellement sur Lou.
On en revient justement à cette idée de recherche formelle que tu as pu faire avec des bandes dessinées, des cases un peu muettes. Est-ce que c'est des choses aussi que tu verrais développer peut-être dans la suite de Lou?
Ah oui, complètement. C'est-à-dire que vraiment, je ne peux pas trop en parler, mais justement, le concept, c'est d'avoir un format qui me permettre de m'éclater encore plus dans la narration, parce que ce format de 46 pages couleur qu'on a et qui est imposé, voilà, c'est pour moi c'est une contrainte qui pour le coup est dont j'ai l'impression d'avoir fait le tour, donc là voilà, je suis en train de concevoir un nouveau format qui me permettra plus facilement de m'imposer de nouvelles contraintes, en fait. Voilà.
Bah écoute, Julien Nil, merci beaucoup pour cette interview, c'était un très bon moment. On est content de savoir que Lou a donc un personnage plein d'avenir encore, et bonne continuation et à très bientôt.
Bah écoute, merci beaucoup et un gros bisou à tout le monde.
Merci.